Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, nous aurons des invités, des experts des questions internationales qui vont développer la question du Mali. Justement, le Mali, qui avait été donc affaibli économiquement et militairement par la France pendant plus de 8 ans, et après l'expulsion de ces derniers, le Mali a pris un certain nombre de mesures pour devancer donc et progresser dans différents domaines, dont industriels et bien sûr sécuritaires. Parmi ces mesures, on peut citer la synchronisation de la police et l'armée, ce qui a rendu en effet très en colère l'Occident, surtout l'axe US-LOTAN, car ces mesures permettent donc justement au Mali donc de progresser et particulièrement de faire régner la sécurité et la stabilité dans ce pays. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre juste après ce reportage. Restez avec nous.
Au Mali, police nationale et protection civile auront désormais les mêmes attributs que l'armée. Une décision actée ce jeudi 6 octobre afin de renforcer la sécurité dans les zones où sévissent les groupes armés et les terroristes. Mais visiblement, cette décision n'enchante pas les milieux occidentaux qui ne cachent pas leur mécontentement. Alors que l'austérité revendique une mesure permettant de mieux faire face à la situation sécuritaire, certains observateurs y voient un moyen de dissoudre les syndicats, lit-on alors sur Jeune Afrique. Si le projet de loi n'a pas encore été détaillé, l'accueil de cette mesure par les policiers est aussi incertain, écrit Courrier international à ce sujet. Mais pourquoi cette décision est-elle tant contestée au sein de l'axe US-OTAN? Il nous est de constater que désormais l'État pourra contrôler la police nationale qui lui échappait depuis belle lurette à cause de ses différents syndicats qui étaient chaque fois en quiproquo avec eux. Avec cette militarisation de la police nationale et de la protection civile sapeurs-pompiers, désormais plus de syndicats et ils se soumettront de force ou de gré aux décisions qui seront prises par l'État. C'est pour cette raison qu'ils seront déployés dans les zones reconquises par l'armée afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et d'empêcher le retour des forces du mal et ainsi pour la protection civile, pour couvrir les arrières des forces engagées au combat. Le gouvernement précisant que cette mesure a été prise au regard de la situation sécuritaire et des défis multiples auxquels les forces de défense font face, et que les fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile engagés en opération vont bénéficier des mêmes avantages que les autres militaires. Cette décision est un pas de plus vers le renforcement de l'armée nationale, une armée qui, malgré la présence néfaste de Barkhane durant toutes ces années, a tenté de garder sa force, sa présence et sa souveraineté sur le terrain et qui n'a pas manqué de marquer des points durant ces derniers mois où Barkhane et Sy étaient expulsés du Mali. Pour prouver encore une fois qu'il n'a guère besoin de la présence d'une quelconque armée étrangère et interventionniste pour gérer sa sécurité. D'ailleurs, il y a moins d'une semaine, les forces armées maliennes FAMA ont annoncé avoir neutralisé 41 terroristes dans le centre du pays à l'ouverture d'une enquête sur un assassinat présumé de 53 civils attribués à l'armée malienne. En attendant, ils sont nombreux, les Maliens, à soutenir d'ores et déjà ce projet de militarisation de la police nationale et de la protection civile, car pour eux, cela permettra à coup sûr de mieux sécuriser les zones reconquises par les FAMA. Seule partie mécontente dans cette affaire, c'est bien sûr l'axe US-OTAN qui voit à travers cette décision un échec de plus au Sahel.
Alors voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat diffusée depuis Téhéran. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions internationales et professeur à l'université depuis Vaucluse. M. Bernard Cornu, bonjour.
Oui, bonjour. Je ne suis plus professeur à l'université, même si j'ai fait quelques conférences. Je suis à Paris ces jours-ci.
D'accord. En tout
Bonjour.
cas, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour à vous. Bonjour à vos téléspectateurs. Bonjour surtout à Monsieur Cornu, qui me rappelait lors d'une conversation de la dernière émission qu'il était déjà à mes côtés en Libye en 1996. C'est donc un plaisir de débattre avec lui.
D'accord, donc un débat prometteur, donc, Monsieur Luc Michel. Et justement, ma première question va s'adresser à vous. Alors, le gouvernement malien a pris un certain nombre de mesures pour donc en finir avec l'influence étrangère, et particulièrement celle de la France, et l'axe US et l'OTAN, bien sûr. Et parmi ces mesures, on peut citer, bien sûr, la synchronisation de la police et l'armée. Pourquoi le gouvernement malien a pris de telles décisions?
Il y a trois remarques à faire. Tout d'abord, les adversaires de la militarisation de la police malienne, ils sont mal pris de critiquer cette mesure puisque la militarisation des forces de police depuis 20 ans, c'est une mesure qui est venue des États-Unis et qui concerne maintenant toutes les forces de police occidentales. En particulier, il y a le déploiement de techniques militaires de combat de rue et il y a le déploiement d'armes de type d'armes de guerre auprès des forces de police. La seconde chose qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, le Mali n'en a pas encore fini avec les forces compradores qui sont liées à l'ancien occupant occidental, en particulier à la France et aux États-Unis. La troisième chose qu'il faut dire, c'est que le Mali, depuis qu'il a chassé Barkhane et s'est détourné de la France, s'est tourné vers la Russie. Il a conclu des accords sécuritaires avec la Russie. Ils collaborent avec le contre-espionnage russe, le GRU, et les paramilitaires sont déployés au Mali. Il faut comparer avec ce qui s'est fait en Centrafrique. Le territoire de la Centrafrique a été reconquis à 95% par les forces du président Touadéra, qui n'occupait même pas tous les quartiers de sa capitale il y a encore 4 ans. Et ça a été fait en déployant des forces militarisées encasernées sur tout le territoire national. Le Mali a besoin de ses forces militaires, paramilitaires et policières militarisées de façon à pouvoir occuper tout le territoire national, en sachant qu'il est en train de récupérer les 2/5 du territoire national qui avait été abandonné par la France aux terroristes d'Acmi et des Touaregs. Voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire.
Oui, merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Bernard Cornu. Alors, M. Cornu, que pensez-vous donc de ces mesures qui avaient démontré, prouvées par M. Luc Michel?
L'analyse de la situation politique interne et aux troubles qui ont lieu au Mali, il faut réfléchir à l'origine de ces troubles qui remontent à très loin et à très large. Pourquoi? Parce que je connais un peu le Mali et les pays des environs. Il y a une très grande différence de prix des carburants entre l'Algérie ou la Libye, où ils sont très bas, pays pétroliers, et les pays du Sahel, où actuellement ils dépassent 1 euro, 1,20 euro. C'était aussi très bas aussi au Niger. Donc il y avait depuis très longtemps, depuis des décennies, des contrebandes. Et ceci développe des mafias, de la corruption aux frontières. Et une fois que la contrebande de carburant est établie, les réseaux mafieux utilisent ces connexions et ces modes de transport pour transporter des armes, de la drogue, des travailleurs immigrés, étrangers. Il faut rajouter aussi quelque chose qui s'est passé dans les années 79, quand les pays arabes de la péninsule arabique sont très riches. Ils sont venus en avion, puis après utiliser des tout-terrains pour chasser la gazelle et aussi trouver des filles. C'était donc tout ceci à développer des réseaux très puissants face à des clients très très riches, et ceci aussi a contribué à développer non seulement au Mali mais au Niger, en Haute-Volta et sur les pays de la côte du Golfe d'Abidjan, du Togo, d'Ahomey, des mafias et puis donc le trafic d'armes. C'est pour ça, et ceci se rajoute évidemment la revendication d'autonomie des populations Touareg du nord de ces pays subsahariens. Et cette rébellion existe depuis plus de 40 ans et il n'y a pas été trouvé de solution ni de la part des pays eux-mêmes, ni la part des coopérations avec les Français ou d'autres pays qui auraient pu essayer d'aider à des évolutions du système politique local, de la Constitution, des lois adaptées aux situations régionales, aux situations de vie de ces Touaregs, qui étaient à l'époque encore très mobiles et qui avaient besoin néanmoins d'écoles, de soins. Et il fallait organiser tout ça. C'était difficile, c'était possible de le faire, mais ça n'a pas été fait. D'où cette revendication, le mélange de cette revendication d'autonomie régionale et de ces trafics aux frontières à cause de différences de taxation sur les carburants principalement. Et donc le problème est régional et il est dommage effectivement que ni l'ONU ni les organisations africaines n'aient attaqué ce problème de la taxation des carburants qui est la mère des contrebandes.
Monsieur Bernard Cornu, quel était le rôle de la France dans cette situation? Est-ce que le fait que la France ait été expulsée donc, du Mali, est-ce que ça n'a pas aidé les choses à la stabilité et justement le vol du carburant, par exemple?
Si vous voulez, je n'ai pas été sur le terrain pour évaluer les méthodes des troupes françaises mobilisées sur place à l'appel du gouvernement d'alors, du temps de François Hollande. Mais c'est vrai que la presse a rapporté des exactions, des difficultés. Et de toute façon, une armée étrangère dans un pays, ça ne peut pas fonctionner, que ce soit volontaire ou que ce soit à la demande, disons, ou à ce soit une armée occupation. Il y a forcément des populations qui ne veulent pas de ça et qui réagissent parfois violemment contre ça. Donc, les évolutions politiques, les insatisfactions face à la gestion des contrebandes et du terrorisme, du trafic d'armes et d'autres trafics, ont fait que l'impatience du gouvernement a fait qu'elle a demandé le départ de ces troupes françaises de Barkhane. Donc, je peux seulement parler de la coopération civile que menait la France. J'ai fait quelques missions au Mali, notamment sur la gestion de l'électricité, mais j'ai travaillé de très près, j'ai circulé à moto avec les releveurs, donc je connaissais bien le terrain. Et d'ailleurs, le directeur malien avec qui j'ai affaire dit « Monsieur Cornu, vous connaissez maintenant mieux le Mali et son problème d'électricité que la compagnie française, la grande compagnie française qui est là depuis plusieurs décennies et qui vit dans un milieu, dans une villa riche avec une piscine et qui connaît très mal la situation du Mali. » Je crois, j'ai déjà cité à cette antenne le problème que j'avais identifié aussi des frigos. Le Mali importait des frigos d'occasion, rejetés par l'Occident et même par la Russie, j'en ai vu. Et ces frigos consommaient énormément, 3 ou 4 fois plus que devrait consommer un frigo moderne, bien isolé, adapté à ce climat tropical et à cette chaleur du Mali. Donc vous voyez, ce genre d'erreur, de problème très pratique qui affecte la situation économique et sociale des gens, fait qu'on peut comprendre un peu le ras-le-bol des populations du Mali et d'autres pays face aux coopérations occidentales qui souvent sont mal ciblées, pas assez pratiques et souvent aussi trop chères.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir et connaître votre opinion aujourd'hui?
Oui, parce qu'il faut compléter ce que dit le professeur Cornu. Il y a depuis la fin des années 1960 des problèmes entre les Touaregs et l'État central. Mais tout a été aggravé volontairement par les Américains et les Français à la suite de la destruction de la Jamaïque libyenne en 2011. À cette époque-là, les Touaregs étaient employés par la Légion islamique de Kadhafi. Ils se sont retrouvés après la mort du guide libyen orphelin. Et à ce moment-là, les généraux américains de l'Africom et les généraux français leur ont permis de traverser 3 pays avec armes et bagages. Parmi les armes, il y avait des véhicules blindés, il y avait des missiles anti-chariots, anti-hélicoptères, et ils ont fait leur jonction, ce que prévoyaient les services secrets avec les gens d'ACMI. C'est de là qu'est née la rébellion, justement malienne. Il y a eu un scénario à la Libyenne qui a été développé au Mali et en Centrafrique. Au Mali, donc, c'est l'arrivée des Touaregs et leur jonction avec ACMI. Et en Centrafrique, c'est une coalition islamiste qu'on a amenée au pouvoir, la SELECA. La SELECA en Songo, cela veut dire la base. La base en arabe, ça se dit Al-Qaïda. Si on ne sait pas ça, on ne comprend pas ce qu'est la Centrafrique. Le ministre Lavrov, il a résumé tout ça en 2014. Il a dit dans une phrase, on ne peut pas prétendre combattre les islamistes à Bamako et les avoir installés au pouvoir à Tripoli. Voilà ce dont les colonels Kamassi Migota ont décidé de mettre fin et avec l'aide de la Russie, de reprendre le contrôle du territoire national.
Absolument. Merci, M. Luc Michel. Mais je m'adresse à M. Bernard Cornu depuis Paris. M. Cornu, comment expliquer le mécontentement de certains pays occidentaux, enfin l'axe US-LOTAN, face à des mesures prises par le gouvernement malien, dont la synchronisation de la police et de l'armée? Et pour, comment ils font pour contourner les sanctions exercées à leur encontre?
Disons, d'une part, je comprends la nécessité très pratique de cette mesure du Mali, de militariser la police, pour que, au-delà d'une occupation, de combat de l'armée avec des groupes armés rebelles de différentes natures, mafieux ou Touareg, il faut arriver à gérer le pays, à contrôler la situation d'un point de vue civil. Et donc, tant qu'il y a des rébellions armées, des armes, beaucoup dans cette région-là, en partie en provenance du pays, il faut que la police ait les moyens de gérer les situations civiles.
Monsieur Cornu.
Alors, s'il y a des reproches de la France et des États-Unis de cet axe US-OTAN, c'est en fait à cause de la situation générale de la région et de la contagion de cette rébellion contre les anciennes puissances coloniales, la France, bien sûr, se propage à d'autres pays parce que le Mali a finalement eu le courage, l'audace ou le culot de demander à la France de retirer son contingent militaire.
Monsieur Cornu, si vous permettez, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce qu'ils gagnent, les pays occidentaux, enfin surtout la France, dans l'instabilité et l'insécurité dans ce pays?
Je n'ai pas entendu la question.
Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'ils gagnent, l'axe US-LOTAN, si l'insécurité et l'instabilité régnaient au Mali? Pourquoi ils sont contre la stabilité dans ce pays?
Disons, je ne dirais pas qu'ils gagnent, mais comme l'a bien dit M. Luc Michel, il faut remonter à l'attaque illégale sur une résolution 1773 qui a été abusée, qui a été complètement dépassée. Il y a eu la destruction de la Libye pour des raisons, d'une part, très géopolitiques, parce que le colonel Kadhafi, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 69, peu de temps après, en 70, il a analysé le problème de la gestion du pétrole et il a dit lui-même, à l'époque, en 1971, qu'il faudrait coter le pétrole en un panier de monnaie et non plus avec le seul dollar. Et cette idée s'est propagée dans d'autres pays à l'époque, en Iran, même en Arabie Saoudite, même, et à d'autres pays. Et l'Irak l'a fait, lui, en cotant son pétrole en euros. Que cette volonté conjuguée des grandes puissances, France, Angleterre, États-Unis, de détruire le régime libyen en faisant une attaque qui a été illégale, en fait, a propagé effectivement tout un système d'armes, les stocks d'armes qui ont été propagés. Donc, en fait, la responsabilité d'origine est à ces pays-là, du temps de M. Cameron et Sarkozy, qui ont voulu détruire le régime libyen. Sarkozy aussi, pour des raisons très personnelles et qui sont encore à juger, mais on saura bientôt la vérité complète assez rapidement. C'est parce que ces puissances-là refusent d'assumer leurs responsabilités très graves datant de 2011 qu'ils ne souhaitent pas que les régimes africains qui ont souffert de ces conséquences soit stable et puisse plaider en justice, puisse parler dans les médias, expliquer la situation et demander à ces pays-là des dédommagements pour recouvrer leur stabilité et mettre fin à ces trafics, à ces usages des armes.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, la même question à vous. Qu'est-ce qu'il gagne l'axe US-LOTAN dans l'instabilité?
Écoutez, les Occidentaux ne sont pas victimes de la situation. Ils en sont les bénéficiaires et ils l'ont organisé. Au Mali, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a surtout de l'uranium de plus grande qualité que celui du Niger. Voilà ce qui explique la présence des Américains et des Français. Les djihadistes, ce ne sont pas des ennemis de l'Occident, ce sont des alliés tactiques. Le djihadisme sert de prétexte à l'ingérence militaire occidentale et au pillage du pays. Voilà ce qui est en train de se passer. Au Mali, en 8 ans, les Français ont eu 63 morts. En 1960, au Vietnam, les Américains, pendant la même période, ont eu 100 000 morts. C'était une vraie guerre. Mais la soi-disant guerre au terrorisme est une comédie, un théâtre qu'on dresse devant les populations africaines pour venir les piller, les spolier. Voilà ce qui explique leur colère, parce qu'aujourd'hui, le roi est nu. Les Français, les Américains, ils apparaissent comme s'ils sont des occupants étrangers.
Oui, Monsieur Luc Michel, un mot tout de même sur la Russie. Depuis que la Russie est influente dans ce pays, ils ont tué plus de terroristes qu'ils ont tué en 8 ans la France.
Écoutez, la Russie est arrivée via le Soudan à l'issue de la guerre de Syrie en 2015. Il s'est ensuite tourné vers la Libye. Il a aidé diplomatiquement le Burundi. Et puis il s'est dirigé avec des firmes paramilitaires vers la Centrafrique fin 2017 et aujourd'hui vers le Mali et le Burkina Faso. Ce que la Russie recherche, elle est également présente dans 14 pays africains où elle dispute la situation aux Occidentaux. Dans ces pays, il y a le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Mozambique ou l'Éthiopie, par exemple. Ce que la Russie recherche, ce n'est pas des richesses, puisque les ressources matérielles, l'uranium, le gaz, le pétrole, l'État continent qu'est la Russie en est riche comme l'Afrique. Ce que la Russie recherche lorsqu'elle est revenue à partir de 2015 sur les champs de bataille de la guerre froide, comme disent les Américains, ce sont des alliés géopolitiques dans l'optique de la future Troisième Guerre mondiale. Bien entendu, la condition évidemment pour que l'Europe ne soit plus alliée de l'Occident, c'est de rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale des États africains. C'est ce que fait la Russie aujourd'hui. Et c'est ce qui explique la colère surtout des Américains, mais également la colère des Français. La colère des Français, c'est une conséquence, une séquelle de la déstabilisation américaine.
Monsieur Cornu, est-ce qu'on peut connaître votre opinion là-dessous, je vous prie?
Bien sûr, M. Luc Michel a cité le respect de l'intégrité des frontières, mais il faut quand même dire que toutes ces frontières ont été établies par les puissances coloniales, dépendance, et on peut comprendre qu'il y ait des revendications d'autonomie, de régionalisation dans certains pays pour des raisons ethniques, linguistiques, religieuses. Donc il faudrait que l'ONU s'attache un peu à ça pour trouver les solutions constitutionnelles ici et là, pour calmer ses revendications, pour satisfaire ses revendications régionales qu'il y a un peu partout dans ces régions. Et encore une fois, pour faire cesser les tarifs, il importe qu'il y ait une convergence des taxes sur les carburants, que la contrebande des carburants est très facile et elle enrichit beaucoup de mafias, elle génère la corruption. Tant qu'elle est là, ça génère des contre-choses. Donc, pour calmer la situation, je pense que cette coopération internationale sur la fiscalité des carburants essentielle.
Oui, Monsieur Luc Michel, pour terminer, les pays occidentaux, enfin ceux qui sont influents au Mali, est-ce qu'ils vont rester les bras croisés ou bien ils vont prendre des mesures pour à nouveau donc se renifler dans les affaires intérieures du Mali et peut-être bien être bénéficiaires?
L'Occident est pour le démembrement des États et la création de petits États non viables. Il y a eu 5 périodes, ce qu'on appelait le Grand Moyen-Orient de Bush 2, qui allait en fait du Maroc à l'Asie centrale. Ensuite, il y a eu le printemps arabe d'Obama, le printemps africain en 2014, la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton en 2018. Et aujourd'hui, il y a un nouveau printemps africain qui est organisé par Biden, qui est en cours d'organisation. Le but de cela, c'est d'arriver à 35 nouveaux États en Afrique et au Proche-Orient. La Russie, elle développe une théorie géopolitique différente. C'est le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté des États, et c'est la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Voilà donc pourquoi le choc est évident entre l'Occident et la Russie. Maintenant, l'Occident ne se laisse pas faire. Les Américains sont en pleine contre-offensive, et les Français ont démarré celle-ci. Parmi ceux-là, il y a un train de nouvelles lois sanctions contre les États africains qui veulent collaborer économiquement avec la Russie C'est une loi qui est en train d'être votée au Sénat américain, qui va viser 37 pays africains. Il y a la création dans la guerre de la communication d'un centre spécialisé qu'on appelle le Global Engagement Center, qui est fait par le State Department et le Pentagone. Enfin, évidemment, il y a le déploiement des missions militaires de l'Afrique. La France a continué. Elle a décidé de consacrer, de confier la guerre de communication à l'armée française et plus aux médias d'État. Et elle est en train de créer un mouvement d'organisation de la société civile pour fracturer les États africains, notamment un forum des ONG qui est imité des méthodes américaines.
Tout à fait.
Il ne faut donc pas croire que les Occidentaux vont se laisser dépouiller par la Russie ou rétablir l'autonomie des Africains. Ils vont se battre bec et ongles pour que ça n'arrive pas. On en a l'exemple déjà actuellement dans la Corne de l'Afrique avec le Soudan et l'Éthiopie, qui sont les États qui avaient déjà évidemment tenté de recueillir leur souveraineté. Absolument. Dès les années 2017-2018. Des présidents renversés comme Omar el-Béchir par Donald Trump ou comme Abiy Ahmed, qui est sous l'objet d'une guerre civile, ce sont les premiers qui avaient tenté le mouvement. Aujourd'hui, il y a Touadéra, Assimi Goïta, le capitaine Traoré au Burkina Faso.
Absolument.
Les étapes suivantes, évidemment, ce seront probablement le Cameroun et le Tchad. Il faut retenir qu'il y a un État pilote dans la collaboration avec le Bloc de l'Est, la Russie, mais aussi l'Iran, c'est la Guinée équatoriale. Dès 2015, le président Biagneman Bassongo a fait des accords militaires avec la marine russe. Rejoint l'OPEP. Il a participé à l'organisation des États africains producteurs de gaz. Et enfin, il a fait des accords avec la Chine. En ce moment, il est l'objet, lui et son fils, d'une vaste entreprise de déstabilisation.
Absolument.
Qui est menée principalement par la France.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Monsieur Bernard Cornu, qui nous a accompagnés depuis Paris. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.